fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 4. Une cage dorée. 15 jours après les événements que nous venons de raconter, le château de Lovel était dans toute l'animation des derniers préparatifs pour le mariage. Le père André avait été envoyé à la foire d'York pour acheter 20 aunes de drap écarlate, 14 aunes de satin mordoré, 8 aunes de satin pourpre, autant de draps bleus brochés d'argent, sans compter encore des bijoux et de riches fourrures. Les servantes s'affairaient de tous côtés, Richard Pinson portait des messages, et Sir Godefroy s'était occupé en personne de l'achat d'une selle magnifique, recouverte de velours vert. Lord Marnell ne venait pas souvent à Lovel, mais y envoyait chaque jour un messager de confiance, pour s'enquérir si sa fiancée avait bien dormi, et si elle était joyeuse et contente. Hélas, la joie était bien loin du cœur de Marjorie. Les préparatifs furent enfin terminés, et, par une radieuse journée d'été, Marjorie Lovel épousa dans l'église de Bostock, Sir Ralph Marnell, baron Marnell de Lymington, chevalier de la jarretière. La fiancée portait une robe de drap bleu lamé d'argent, garnie de petits gris, et, suivant la coutume du temps pour les mariés, ses cheveux dénoués flottaient sur ses épaules. L'époux était vêtu de velours cramoisi, garni de galons d'or, et trois longues plumes ornaient son chapeau. Rien n'avait été épargné pour que la cérémonie fût somptueuse, mais la gaieté y manquait complètement. Tous les habitants du château de Lovel savaient que l'épouse était loin d'être heureuse. Sir Godefroy et sa femme étaient attristés à la pensée de perdre leur unique enfant. Le père André se lamentait du départ de sa petite préférée, et Richard Pinson cachait un chagrin particulier, dont nous parlerons plus tard. Tous les voisins des châtelains avaient été conviés au repas de noces. Les festivités se prolongèrent jusqu'à une heure tardive, et le lendemain, dès l'aube, les servantes aidèrent activement à emballer le trousseau de la mariée. Au milieu de cette effervescence, Marjorie semblait la seule personne inoccupée, mais elle avait songé à la chose qui lui tenait le plus à cœur, son livre bien-aimé, la suivit dans sa nouvelle demeure. À cette époque, le voyage du nord de l'Angleterre jusqu'à Londres était très long et très fatigant. On faisait la route en litière, à cheval, ou dans de lourds chariots. Lord Marnell fit à cheval tout le trajet, et parfois sa femme, quittant sa litière, montait en croupe derrière lui. Une suite nombreuse les accompagnait, et nous y retrouvons Alice Jordan, l'une des jeunes servantes que Dame Lovel avait donnée à sa fille, pour son service particulier. Les voyageurs arrivèrent à Londres un soir, à la tombée de la nuit, et Marjorie était beaucoup trop fatiguée pour songer à autre chose qu'à dormir. Mais le lendemain matin, aussitôt après avoir déjeuné, elle entreprit avec Alice d'explorer les environs de sa nouvelle demeure. Un des serviteurs de Lord Marnell, armé d'une rapière, les suivait à une courte distance, prêt à défendre sa maîtresse en cas d'attaque. La maison de Lord Marnell était située aux confins de la ville et de la campagne, dans un endroit calme et retiré, qui se nomme aujourd'hui Fleet Street. De vertes prairies s'étendaient entre les villes de Londres et de Westminster. Un seul pont traversa la Tamise, qui coulait clair et limpide à travers de plantureux vergers. Ce pont était couvert de constructions diverses, sous lesquelles on avait ménagé un passage pour les véhicules. Sur la droite s'élevait le magnifique palais de Westminster, relique des rois saxons. En arrière, la vieille abbaye, avec sa chapelle massive et austère. Sur la gauche brillaient les murs et les tourelles de la tour blanche, la résidence du roi. Marjorie cependant ne put voir tout cela du premier coup d'œil en sortant de sa maison. Ce qui la frappa tout d'abord, ce furent les détails les moins plaisants de la scène qui l'entourait. Il n'y avait pas de trottoir. En règle générale, les rues étaient juste assez larges pour laisser passer un véhicule, bien que dans quelques-unes des principales artères, il y eut place pour deux, et les pavés consistaient en énormes pierres inégales et raboteuses. Au milieu de la rue était creusée une rigole, dans laquelle chaque ménagère vidait ses eaux sales par la fenêtre. Et ce ruisseau d'immondices répandait une odeur si pénible que Marjorie eut à faire un usage constant de son commandé, mélange de drogues odoriférantes renfermé dans une sorte de réseau en or. Tandis qu'elle suivait les rues bordées de chaque côté par des boutiques, elle était saluée du cri incessant des marchands, debout sur le seuil de leur porte. « Que vous manque-t-il, belle dame ?» Les véhicules étaient de deux sortes, ainsi que je l'ai déjà dit, les chariots et les litières. Celles-ci étaient le moyen de locomotion habituel au XIVe siècle, mais à l'époque dont nous parlons, les chariots étaient plus nombreux. Parfois, une dame de qualité passait dans sa litière, traînée par des chevaux dont le trot ébranlait le sol. Ou bien un chevalier, suivi d'une troupe d'hommes d'armes, faisait piaffer son coursier fougueux. Ainsi s'écoula la plus agréable journée que Marjorie eût passée depuis son mariage. Elle réussit à satisfaire sa curiosité en observant chacune des choses dont elle avait si souvent entendu parler. Lord Marnell fronça les sourcils lorsque Marjorie lui avoua, à son retour, qu'elle était sortie pour visiter Londres. « Il n'est pas convenable, lui dit-il, que vous sortiez ainsi à pied. Ce n'est pas la coutume pour les dames de votre rang. Vous auriez dû commander votre litière et vous faire accompagner de quelques serviteurs. Mais, monseigneur, répondit naïvement Marjorie, n'en déplaise à votre grâce, je n'aurais pas vu aussi bien dans une litière. » La sombre physionomie de Lord Marnell s'éclaira d'un sourire, car la simplicité de sa jeune femme l'amusait. Mais il répéta qu'il la priait de se souvenir dorénavant qu'elle n'était plus Mistress Marjorie Lovell, mais la baronne Marnell de Lymington, et qu'elle devait se conduire en conséquence. Marjorie soupira en voyant sa liberté ainsi entravée, mais elle ne répondit rien et se retira pour aller surveiller Alice, qui déballait ses vêtements. Comme le soir approchait, la voix de Lord Marnell l'appela à l'étage inférieur. « Marjorie, lui dit-il, comme elle entrait dans la salle, venez vite vous verrez le roi qui se rend du palais de Savoie à la tour. » La jeune femme courut à la fenêtre et vit une foule de cavaliers, couverts, comme l'étaient, du reste, leurs montures, d'étoffes éclatantes. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel semblaient chatoyer dans la rue. « Où est sa majesté le roi ? » demanda-t-elle avec curiosité. « Vous le voyez là-bas avec une robe rouge et un capuchon noir, tout uni. Il monte un cheval blanc, recouvert d'une housse écarlate, sur laquelle des plumes d'autruche sont brodées en or. Comment, ce petit homme blond, si simple, est le roi ? C'est lui-même. Ce seigneur de belle mine, qui chevauche près de lui sur un cheval brun et qui a des yeux comme un aigle, est le duc de Lancastre. Le peuple l'appelle John de Gaune, parce qu'il est né à Gand, dans les Flandres. Et qui sont les autres, si j'ose vous le demander ? Ce sont, pour la plupart, des lords et des seigneurs de la noblesse, dont vous connaissez peut-être les noms. Celui-là en vert, avec une plume rouge, est le comte de Surrey. Le duc de Northumberland porte un habit bleu brodé d'or, comme l'est aussi l'anse de son coursier. Ce seigneur à la mine hautaine, sur le cheval rouan, est le duc d'Exeter, demi-frère du roi par sa mère, qui était marié en première noce avant d'épouser le prince, dont Dieu est l'âme. Ah, et voici venir monseigneur de Hereford, Harry de Bolingbroke, seul fils et héritier du duc de Lancastre. Et si on en croit la rumeur publique, il vaudrait mieux ne pas avoir un fils pareil, ajoute alors Lord Marnell à demi-voix. Le voyez-vous, Madge, il passe devant nous, cet homme de haute taille, aux cheveux noirs, vêtu de draps d'argent rose. Je le vois bien, monseigneur, répondit Marjorie en frissonnant. Qu'avez-vous, Madge ? Avez-vous froid près de cette fenêtre ?
Je n'ai pas froid, monseigneur, je vous remercie. Mais je n'aime pas l'aspect de cet homme.
Et pourquoi donc ? Demanda Lord Marnell, en regardant la frêle jeune femme à son côté. N'est-il pas beau et de noble prestance ?
Je ne sais. Mais il y a quelque chose dans son visage qui me cause de l'effroi.
Ne le regardez plus, mamie. Et il l'attira loin de la fenêtre. Elle le remercia de la complaisance avec laquelle il avait répondu à ses questions. Et retourna surveiller Alice. Quelques jours plus tard, l'abbesse de Kenningron, sœur de Lord Marnell, arriva en litière pour faire visite à sa jeune belle-sœur. Marjorie fut surprise de ne pas trouver en elle la simplicité qu'elle avait crue, conforme à l'idéal monastique. La noble dame portait, il est vrai, l'habit de son ordre, mais il était en velours noir au lieu d'être en serge ou en bure commune. Sa coiffe était finement brodée, ses longs gants de peau d'Espagne blanche étaient délicatement parfumés, et ornée de broderies de soie de diverses couleurs. Ses mains étaient chargées de bagues, et à sa ceinture était suspendue une boule de senteur d'un riche travail d'or, et d'émail, un cachet en argent, un rosaire dont les grains étaient des améthystes, et un crucifix doré d'albâtre. Dans ce temps où le catholicisme régnait en Angleterre, les religieuses vivaient beaucoup moins retirées du monde qu'aujourd'hui. Elles assistaient à toutes sortes de fêtes. Celles qui appartenaient à la noblesse voyageaient à leur gré d'un bout à l'autre du pays, et, tout en conservant à leur habit monastique sa forme et sa couleur, elles trouvaient moyen de dépenser beaucoup d'argent pour tous les accessoires de leur toilette. L'abbesse de Kenaton ne se distinguait donc en rien des autres autorités ecclésiastiques féminines de son temps. Cette grande dame, si magnifiquement vêtue, avait une manière d'être hautaine et impérieuse, quoique son langage porte à l'empreinte d'une feinte humilité. Elle engagea sa chère sœur à venir la voir dans sa pauvre demeure de Kenington, où elle serait heureuse et fière de la recevoir.
Marjorie répondit avec courtoisie, mais elle n'avait nulle envie de rendre cette visite. Lord Marnell conduisit sa femme à la cour, et la présenta au roi, la reine était morte, et à la duchesse de Gloucester, sa tante. Le roi parla à Marjorie avec bonté, mais la duchesse la dévisagea avec arrogance, et ses dames d'honneur questionnèrent la jeune femme avec plus de curiosité que de politesse. Aussi cette visite à la cour laissa-t-elle à Marjorie une impression fort peu agréable, sauf pour l'accueil plein de bonté de Richard II, durant l'hiver de 1396, le roi ramena de France une nouvelle reine, la princesse Isabelle, qui avait tout juste 8 ans. Marjorie vit la petite reine faire son entrée à Londres. La fillette était couverte de bijoux, qu'elle avait apportés de son pays, et à chaque nouvelle halte de son voyage, on lui en avait offert de nouveaux. Alice Jordan, qui regardait ce spectacle, tout émerveillée, demanda à sa maîtresse si elle n'aimerait pas avoir de si magnifiques joyaux. Marjorie secoua la tête. « Les seuls joyaux qui aient du prix, ma bonne Alice, sont les trésors cachés du cœur, comme la soumission, la douceur et la charité. Et en vérité, si je pouvais choisir, il y a bien des choses que je désirais plutôt que des bijoux. À quoi servent-ils à la reine, à cette pauvre enfant ? Je prie Dieu qu'elle ne se contente pas des trésors de ce monde. » Ce même hiver, un trésor plus grand que tous les bijoux de la reine fut confié à Marjorie. Un trésor dont elle pouvait prendre soin, qu'elle pouvait aimer, pour lequel elle allait vivre, un fils qui devait devenir, autant que cela était possible à un être terrestre, la joie et la lumière de son cœur. Marjorie ne retourna qu'une fois à la cour, pour présenter ses hommages à la nouvelle reine, qui la reçut avec beaucoup de grâce, assise sur un trône à côté du roi. Cette petite reine était élevée à Windsor, et venait très rarement à Londres. Lady Marnell, fatiguée du vain éclat de la vie mondaine, ne trouvant personne dans sa propre sphère avec qui elle pût s'associer, se partagea avec une nouvelle ardeur entre son enfant et son livre, les deux trésors que Dieu lui avait donnés.